Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcastine.
Aujourd'hui, nous recevons Cyril Pitois dans Podcastine. Cyril, vous êtes rédacteur en chef d'Aki.fr et vous êtes l'auteur de l'article « Le port de Bordeaux met le cap vers 2025 en mode décarboné ». Bonjour.
Bonjour.
Pour Aki.fr, un journal en ligne de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes allé à la conférence de presse du port de Bordeaux. C'était un moment important puisque Philippe Dort et Jean-Frédéric Laurent, respectivement président du conseil et directeur général du port de Bordeaux, ont discuté d'un plan dit stratégique le 19 octobre dernier, un plan de modernisation de 72 millions d'euros d'investissement. Lorsque l'on détaille le programme, beaucoup de questions se posent. Il y a des chantiers dans tous les sens. La construction de nouvelles grues, d'un terminal de conteneurs, la question des escales de paquebots dans le centre-ville qu'ils souhaitent intensifier, ou encore l'édification d'un site industriel pour devenir producteur d'hydrogène. Nous allons évidemment revenir ensemble sur ces questions. Ce qui interroge le plus, c'est ce virage décarboné mis en avant, une véritable mutation à l'échelle du territoire et une opportunité de réindustrialisation, disent-ils dans votre article. Peut-on croire vraiment à une telle déclaration d'intention ? N'y a-t-il pas là une part de greenwashing ? Après la conférence de presse, il semble légitime de se poser ces questions. Un petit rappel d'abord, quelle est l'importance économique du port de Bordeaux dans le paysage français, ainsi que son poids dans la région ?
Oui, c'est un port de premier plan. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent des ports du nord de la France ou du bassin méditerranéen, mais le port de Bordeaux est tout à fait essentiel sur la façade atlantique. Le port de Nantes-Saint-Nazaire est derrière lui. Et après, il y a le port du Havre, évidemment. Il y a le port du Havre qui est le plus important dans le volume et dans les tonnages. Après, il faut bien savoir que dans les comparaisons entre les ports, on a souvent du mal à comparer parce qu'on compare des choux et des carottes, c'est-à-dire que celui qui fait beaucoup de pétrole ne fait pas forcément beaucoup de conteneurs, celui qui fait du maïs ne fait pas forcément d'autres marchandises. Donc il faut toujours regarder ça avec un peu de détail et de distance. Il y a aussi le trafic passager. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de critères différents. Mais c'est clair que Bordeaux est historiquement un port de premier plan pour la France, qu'il a connu récemment ces dernières années un creux de vague, sans faire de mauvais jeu de mots, et qu'il a très clairement besoin de reconquérir son rôle, sa part de marché dans les modes de transport contemporains.
Justement, quelles sont les activités principales du port de Bordeaux ?
On a l'habitude de dire que tout ce que vous consommez, c'est un camion, vous l'a apporté, mais il y a beaucoup de choses que vous consommez, c'est un bateau qui vous l'a apporté avant le camion. C'est-à-dire que dans la magie ou la danse vertigineuse des échanges internationaux, il y a énormément de fret maritime, qui est quelque chose qui est assez transparent pour la population, parce que ça se passe souvent loin des villes et des centres-villes et des centres commerciaux, et que c'est plutôt au niveau des grossistes et des échanges internationaux et des échanges de devises sur des volumes très importants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours ça présent à l'esprit, mais un port, c'est un endroit où tout passe. La voiture que vous avez achetée, les vêtements que vous avez achetés, le pétrole que vous consommez, les matières premières nécessaires pour l'agroalimentaire, ça touche vraiment énormément de domaines de l'industrie, de l'activité de transformation. Donc un port, c'est un endroit à la fois qui réceptionne de la marchandise qui vient de l'autre bout de la planète ou parfois de pas si loin d'ailleurs. On pourra revenir peut-être sur les perspectives de fret sur le fleuve, puisque le port de Bordeaux est aussi au bord de la Garonne. Mais c'est un port, donc ça réceptionne tout ce qui vient des quatre coins de la planète, et ça aussi, ça expédie du vin, en l'occurrence du maïs, des denrées, des productions locales, vers d'autres points, sachant qu'il y a une stratégie entre les différents ports. Les plus petits alimentent les plus grands. Enfin, il y a des systèmes de hubs. Un petit port va charger un plus petit bateau qui va ensuite venir charger un plus gros bateau.
Avant de revenir sur le plan stratégique du port de Bordeaux, en quoi son activité génère-t-elle de la pollution ?
Les bateaux, ça marche avec de gros moteurs qui consomment d'importants volumes de carburant. Donc déjà, il y a cette partie-là. Et puis, il y a aussi tous les échanges de matières premières plus ou moins dangereuses ou toxiques, etc. Il y a de l'azote qui circule, il y a des engrais chimiques, il y a un tas de produits comme ça qui ne sont pas anodins, on va dire, et qu'il faut protéger au moment où on les charge ou on les décharge. Il faut protéger les émanations. Et puis, un bateau, ça tourne aussi quand c'est à quai. C'est-à-dire qu'un paquebot, pour prendre l'exemple, même quand il est à quai, il continue à faire tourner ses moteurs pour avoir à bord de l'éclairage, des frigos, et tout. Enfin, il a besoin d'une source d'énergie permanente pour continuer à fonctionner. Donc ça, ce sont des sources de pollution récurrentes. Et comme on fait, comme on est sur un port important avec des bateaux et des navires qui sont de plus en plus gros, bah évidemment, c'est des coefficients multiplicateurs. Plus on fait venir de gros paquebots, plus on fait venir des sources de pollution importantes. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue aussi tout ce qui consiste à remplir ou à vider les paquebots, ou les navires, pardon, que ce soit des paquebots ou des navires de charge. C'est-à-dire que pour un bateau, vous avez X camions ou X autocars, s'il s'agit d'un paquebot. Vous avez X véhicules qui viennent chercher, c'est pareil, dans des norias de navettes, des cargaisons. Donc il y a un vrai enjeu autour de tout ça, parce que c'est polluant, c'est clairement.
En 2023, il y a déjà 63 escales de paquebots réservées dans le centre-ville. Extinction Rébellion, une association écologiste, a multiplié des actions contre ces immeubles flottants qui accostent là sur les quais. Pourquoi vise-t-il ce moyen de transport en particulier ?
Donc effectivement, les paquebots, j'ai moi-même travaillé sur la région de Saint-Nazaire, donc c'est un secteur que je connais un petit peu, la construction de paquebots. Et effectivement, depuis 20 à 30 ans, on ne cesse de construire des paquebots de plus en plus gros. Celui qui est en cours de construction actuellement à Saint-Nazaire, il pourra héberger 7000 croisiéristes et 2500 personnels d'équipage. Donc ça fait une ville de 10 000 personnes. C'est une ville moyenne, c'est un chef-lieu de canton, quoi. Tout ça tient sur un bateau. Donc effectivement, c'est considérable. La face visible de l'iceberg, c'est que ça permet un tourisme de masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez partir en vacances 8 ou 10 ou 15 jours avec votre famille sur un paquebot pour un prix relativement modeste, parfois inférieur à ce que vous coûterait un séjour à terre. Donc c'est un levier de tourisme social qui est là, qui est ce qu'il est, qui est fait par des compagnies principalement italiennes d'ailleurs, et qui développe. Et on sait que chaque paquebot qui fait escale dans une ville, à La Rochelle par exemple, pour prendre un exemple qui n'est pas trop loin de chez nous, va générer localement un chiffre d'affaires à la journée, sans avoir besoin de construire, d'investir dans de grosses installations touristiques pour accueillir ces touristes. La ville de La Rochelle par exemple va bénéficier de 10 000 visiteurs en une journée, qui sont des gens qui vont consommer, qui vont manger, qui vont visiter, etc. Donc ça, c'est l'aspect, du paquebot en tant que levier économique, et qui est évidemment pas négligeable pour les institutions locales, les régions, etc. Pour autant, vous l'avez dit, ça soulève un certain nombre de problèmes environnementaux. Ces 10 000 personnes, elles engendrent des déchets, elles provoquent des eaux usées. Et le paquebot lui-même, on le disait tout à l'heure, ses moteurs tournent tout le temps. Et c'est des puissants moteurs et qui consomment énormément. Donc il y a le yin et le yang dans cette affaire. C'est-à-dire que les 10 000 personnes qui sont à bord, les 7 000 vacanciers, s'ils n'étaient pas là, ils seraient peut-être en vacances ailleurs, dans des zones moins bien protégées. Peut-être que le paquebot est un lieu où on va réussir à contenir cette source de pollution. L'autre solution, c'est de dire aux gens, vous ne partez plus en vacances sur un paquebot, vous ne partez plus en vacances qu'à 50 km de chez vous, etc. C'est, voilà, où on place le curseur par rapport à une défense de l'environnement qui, à mon sens, je pense que vous en conviendrez, est incontestable et qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, il faut essayer de prendre tous les paramètres. Alors, je comprends bien qu'une association environnementale qui voit un paquebot s'installer pour plusieurs heures ou plusieurs jours au bord du quai, sur le quai de la Garonne, avec des norias, pour le coup, d'autobus qui viennent chercher les gens, qui les ramènent et tout. C'est localement, sur un point précis, c'est une source de pollution et de dérangement environnemental qui est indéniable.
Le port de Bordeaux a donc annoncé toute une série d'annonces. Sa principale, c'est l'édification d'un site de production d'hydrogène. Pourquoi la direction se lance-t-elle dans un tel projet ?
Oui, en fait, la politique du port de Bordeaux, c'est de se dire que l'hydrogène va être nécessaire pour, comme source d'énergie demain, de manière générale, pour les bateaux, mais aussi pour un tas d'autres modes d'utilisation, les voitures et autres. Et donc, il y a plusieurs façons de produire de l'hydrogène aujourd'hui. Et la possibilité qu'envisage le port de Bordeaux, c'est de produire une hydrogène qui soit décorrélé des hydrocarbures et de vraiment d'être sur une production verte et vertueuse. Le constat de que fait le port, c'est de se dire, nous, on a des terrains qui sont bien situés puisqu'ils sont au cœur d'une grande agglomération et d'un département où il y a beaucoup de monde. Donc, on a des terrains, on a des capacités, on a un savoir-faire industriel. Et en plus, la particularité d'un périmètre comme le port de commerce, c'est que c'est déjà une installation classée. Alors ça c'est un peu du jargon, mais en fait, vous savez que l'État autorise l'exploitation d'un certain nombre de sites industriels, industrialo-portuaires, des aéroports, enfin, etc. etc. Et tout ce petit monde est rassemblé sous le label d'installation classée. Et donc, si demain le port de Bordeaux accueille un site de production d'hydrogène, toute la démarche pour obtenir le label d'installation classée est déjà faite. Et l'exploitant, il peut déjà s'installer sur un endroit qui est dédié à une production industrielle avec ce qu'elle comporte de risques, de contraintes, d'obligations, etc. etc. Donc, la carte que le port a à jouer là-dessus, c'est d'attirer des industriels de l'innovation, de l'avenir, des gens dont aujourd'hui on ne sait pas encore très bien exactement comment ils vont s'organiser, mais de pouvoir les attirer en leur disant, ben voilà, venez étudier votre implantation chez nous, parce que nous, on a déjà tel et tel permis de construire, on va appeler ça, tel et tel permis de produire, qui sont déjà actifs, et qui, rien que du fait que vous installiez sur notre territoire.
Le site de Bassens mobilise la moitié des 72 millions d'euros d'investissement. Que vont-ils y faire ? En quoi cette modernisation est-elle verte ?
Oui, le site de Bassens, c'est un site qui avait pris de l'âge, hein, et qui a vraiment besoin d'une vaste cure de jouvence. Alors là, et donc du coup, puisqu'on doit le moderniser, on va le moderniser avec cette préoccupation d'en faire quelque chose d'environnementalement respectable. Ce que ça veut dire concrètement, c'est en fait, sur un port, vous avez, on l'évoquait tout à l'heure, des navires à quai. Et quand ils sont à quai, les moteurs continuent à tourner, ils continuent à consommer de l'énergie, ils ont des besoins en électricité, etc. etc. Donc ce qui va être implanté à Bassens notamment, c'est une sorte d'alimentation énergétique permanente à disposition des navires. En gros, pour caricaturer complètement, mais pour rendre la chose bien compréhensible, le navire vient se mettre à quai et on lui branche une espèce de grosse prise à son service, avec une énergie qui sera justement produite de façon respectueuse de l'environnement. sans que ça pollue à la fois l'atmosphère et que ça consomme des ressources sous forme d'hydrocarbures. C'est ça l'idée majeure qui va continuer à guider. Ce bassin, ça va être un peu l'innovation et ça va continuer à guider le plan d'innovation, le plan stratégique de modernisation du port.
Il y a aussi d'autres projets, dont la construction d'une ferme photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est et puis surtout à quoi va-t-elle servir ?
Alors, c'est un peu la même logique que ce qu'on évoquait pour le centre de production d'hydrogène, le site de production d'hydrogène. C'est que le port a des terrains. Le port a des terrains qui ont été maîtrisés par le passé pour X ou Y raisons. Aujourd'hui, les activités ont évolué, donc il n'y a plus besoin des mêmes surfaces pour faire forcément les mêmes choses dans les mêmes secteurs. Donc, au travers de ces terrains disponibles dans des endroits quand même assez stratégiques, hein, au cœur d'une métropole, pour faire court, la logique du port, c'est de se dire, bah, mettons ces terrains à disposition, sachant qu'ils ont déjà donc des contraintes maîtrisées en termes de réglementaires, en termes d'implantation de zones de sites classés et compagnie. Donc, une ferme photovoltaïque ou un site de production photovoltaïque, on sait qu'on trouve ça tous très bien, il en faut partout, mais on n'a pas envie d'en avoir un dans le jardin à côté dans le champ au bout de son jardin. Donc un port, c'est un endroit assez adapté pour ça. Ça va servir à produire justement cette électricité ou cette énergie nécessaire aux bateaux à quai. Donc ça, c'est important. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir réinjecter aussi ça dans le réseau général. De même que pour l'hydrogène, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur le port en matière d'hydrogène, parce qu'on sait que les avions vont devoir ont déjà commencé leur mutation en termes de propulsion dans ce domaine-là. Et donc, évidemment, des avions, ils vont avoir besoin d'une production de carburant à proximité de l'aéroport. Ils ne vont pas aller chercher. Voilà. Donc, il y a un faisceau, une organisation, comment dire, des synergies, voilà le mot que je cherchais, des synergies autour de tout ça qui apparaissent peu à peu. Alors, ça fait déjà des années qu'on en parle. Les institutions publiques essayent de rapprocher les différents acteurs. Et derrière, il faut trouver des industriels qui sont prêts à investir, parce qu'il y a un moment, il va falloir quand même parier sur un modèle énergétique et donc réaliser de lourds investissements pour mettre ça au point. Donc tout ça est assez complexe, forcément assez lent, mais on voit bien que le port, là, montre qu'il a cette capacité à proposer des terrains, avec les contraintes que l'on a évoquées, et à jouer sa partition dans un ensemble, à condition qu'il trouve les opérateurs complémentaires.
Est-ce qu'on retrouve le même mécanisme pour la base arrière pour l'éolien flottant ? Là encore, à quoi ça va servir ?
Oui, avec une toute petite nuance, c'est que l'éolien flottant, c'est le port de. C'est sur ce dossier-là, les différents ports de Bayonne, La Rochelle, Rochefort et Bordeaux vont travailler ensemble. C'est le port de La Rochelle qui va prendre le lead, puisque c'est lui qui va le premier en proximité bénéficier d'installations éoliennes en mer. Et la particularité de l'éolien, c'est qu'il y a besoin de grands espaces à terre déjà pour pouvoir entreposer les éoliennes avant qu'elles soient installées, parce que c'est quand même un peu encombrant comme engin. Et ensuite, il faut aussi des bases arrières à proximité du champ d'éoliennes pour avoir des bateaux qui puissent transporter du personnel, du matériel quand il y a besoin, de faire de la maintenance, enfin, etc. Une éolienne en mer, ça ne fonctionne pas tout seul comme ça au milieu de l'océan. Il faut un certain nombre d'interventions régulièrement autour. Donc là, c'est une configuration. Alors, je crois que c'est assez innovant hein, dans le paysage des ports, d'avoir quatre ports qui travaillent ensemble, qui disent à La Rochelle, bon, bah, c'est toi qui es en première ligne, donc tu prends le lead, mais on s'organise tous les quatre pour avoir réservé des terrains et des installations suffisantes pour que les éoliennes en mer qui seront à proximité de chez nous trouvent la base arrière dont elles ont besoin à proximité.
Le port veut construire une nouvelle gare maritime à Pauillac, au nord de Bordeaux, pour accueillir les croisiéristes et minimiser l'impact environnemental des paquebots en escale, précise-t-il. Comment vont-ils s'y prendre ?
Oui, en fait, il y a une difficulté avec les paquebots, c'est qu'à partir d'un certain tonnage, ils ne peuvent pas remonter l'estuaire jusqu'à Bordeaux et on ne peut pas les installer dans le centre-ville. Et comme on a des paquebots de plus en plus gros sur le marché, effectivement, si on veut accueillir des grosses unités, il faut pouvoir les accueillir plus près de l'océan. Donc c'est surtout à ça, parce que les petits paquebots adorent être en escale dans le centre de Bordeaux, évidemment, c'est charmant, on descend du bateau, on va faire ses courses et tout. Mais pour les plus grosses unités, ce n'est pas envisageable. Donc la gare de Pauillac servira à ça, la future gare de Pauillac. Alors il faut savoir que le port a prévu ça dans notre article, on l'a écrit de façon un peu synthétique, mais il a prévu une montée en charge très progressive. Et ils vont déjà tester, je crois que c'est dès l'année prochaine, sur quelques unités, l'accueil de ces paquebots à Pauillac. Voir un peu comment ça se passe, parce que tous les paquebots et tous les croisiéristes n'ont pas forcément la même demande. Vous avez des croisiéristes qui veulent proposer à leurs passagers une visite de Bordeaux intramuros, des monuments, etc. Vous avez au contraire souvent des Américains, je crois, qui préfèrent débarquer à Pauillac et faire un tour de vignoble et visiter le Médoc, etc. Donc voilà, il y a aussi une question d'adaptation du produit touristique derrière. Et alors, pour répondre à votre question sur le moindre impact environnemental autour de cette gare maritime, là, pour le coup, je suis d'accord avec vous que ça reste encore assez flou. Il a été évoqué, par exemple, au cours de cette conférence de presse, qu'on demanderait aux autobus d'éteindre le moteur pendant qu'ils attendaient que les passagers montent à bord des bus. Bon, ça, pour le coup, c'est ridicule. Enfin, voilà, ça, c'est pas un levier sérieux. Donc, c'est sur des choses comme ça qu'il va falloir être vigilant et que des associations ne manqueront pas de tirer la sonnette. Si ça consiste à envoyer des norias d'autobus à Pauillac pour les ramener dans le centre de Bordeaux, effectivement, la démarche environnementale est complètement loupée.
Alors, on l'a un peu évoqué, mais l'annonce de ce plan s'inscrit plus largement dans une volonté de la part des grands ports de France de se mettre au vert. La compagnie de croisière MSC a investi 1 milliard d'euros dans un paquebot qui fonctionne au gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire sans émission de gaz à effet de serre, construit dans le port de Saint-Nazaire et qui a été livré il y a quelques semaines. Quel est votre sentiment, Cyril Pitois ? Est-ce qu'un jour, les ports seront-ils complètement décarbonés ?
C'est une vraie question. qui est un peu trop. Il faudrait avoir une vision technique beaucoup plus fine que celle que je peux avoir. Mais moi, je vois le problème un peu différemment. C'est-à-dire que je pense que les ports ont un vrai rôle à jouer dans la décarbonation globale. La préfète a annoncé il y a quelques semaines, a fait une espèce de teasing bizarre pour dire qu'il y avait un projet de réouverture de lignes fluviales sur la Garonne. Bon, entre grosso modo Agen et Bordeaux, quoi, de recréer du fret fluvial sur la Garonne. Ce qui n'est pas révolutionnaire comme idée, hein, depuis des siècles on a fait ça, et même bien au-delà, et sur la Dordogne et sur de nombreux fleuves, et on a abandonné ça au fil du temps pour des raisons sur lesquelles on ne s'attardera pas, on a un peu perdu le bon sens, je crois, à certains moments. Donc, les ports ont. Alors, et après ça, il faut raison garder, c'est-à-dire que une barge fluviale, même deux barges fluviales, même cinq barges fluviales qui feraient Agen-Bordeaux tous les jours en chargeant au maximum tout ce qu'elles peuvent, ne viendront pas éteindre le flux de camions et le flux de transport routier ou ferroviaire qu'il y a en parallèle. Donc, on est quand même sur une société qui continue. Maintenant, on a à peu près tous en tête l'idée de ce que pourrait être la décroissance, mais on continue à galoper dans le monde de la croissance. Il faut quand même être lucide. Donc, on consomme beaucoup, sans doute de plus en plus, on est de plus en plus nombreux, on a des besoins technologiques, etc., etc., qui font que, même si le télétravail peut-être vient à un moment infléchir un tout petit peu la courbe de la croissance, mais bon, ça reste... voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est... Enfin, pour répondre à votre question, moi, j'essaye de raisonner de façon globale, c'est-à-dire que je pense que les ports vont retrouver le rôle qu'ils avaient... doivent retrouver le rôle qu'ils avaient au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle pour soulager un peu la débauche de pollution qu'il y a par d'autres modes de transport. Mais une décarbonation complète, c'est un objectif qu'il faut avoir, parce que si on ne se fixe pas de beaux objectifs, on est sûr de ne pas les atteindre. Mais dire à quelle échéance ça peut arriver, ça, je ne suis pas capable de le dire, ça demanderait un niveau d'expertise que je ne peux pas défendre.
Merci Cyril Pitois d'être venu au micro de Podcasting.
Merci à vous.
Je rappelle votre article « Le port de Bordeaux met le cap vers 2025 en mode décarboné » est disponible gratuitement sur le site d'Aki.fr.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruault. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.